Le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International, et je vais vous parler des droits des femmes aujourd'hui, et notamment en fin septembre, le 28 septembre, il y a la journée mondiale de l'accès à l'avortement. Donc on va un petit peu s'intéresser à l'histoire de l'avortement, qui est en France surtout marqué par la religion, parce que c'est d'abord l'Église qui condamne l'avortement. C'est d'ailleurs la peine capitale qui est appliquée. Et si les philosophes des Lumières ont permis d'abandonner la peine capitale et d'entrevoir une dépénalisation de l'avortement, il y a eu un revirement de situation qui a eu lieu au XIXe siècle. Ainsi, l'article 317 du Code pénal de 1810 le condamne sans distinction. C'est-à-dire, je cite, « Quiconque provoque l'avortement d'une femme enceinte avec ou sans son consentement, au moyen d'aliments, de drogues, de médicaments, par violence ou d'autres remèdes, est puni de prison. » En 1852, bien que l'avortement thérapeutique soit toléré par l'Académie des médecines et reconnu par la jurisprudence, une nouvelle loi dispose que l'avortement est, je cite, « un crime contre l'ordre des familles et de la moralité publique ». Au début du XXe siècle, on estime à 500 000 le nombre d'avortements clandestins par an et à peu près 300 par an le nombre de décès maternels. Les femmes qui veulent se faire avorter font appel à des femmes surnommées les faiseuses d'anges. Les plus connues, ce sont les tricoteuses qui utilisaient des aiguilles à tricoter pour aller percer la poche des os et ouvrir un petit peu le col de l'utérus pour provoquer une fausse couche. En 1910, on a le professeur Odilon Lannelong qui lui fait une proposition de loi qui aboutit en 1920 à la loi du 29 juillet qui veut réprimer également la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est quand même dans un contexte d'après-guerre. En effet, la Première Guerre mondiale a décimé une partie de la population et beaucoup de natalistes veulent combattre la dépopulation en restreignant les droits des femmes en l'occurrence. Donc avec cette loi, non seulement l'avortement est un crime, mais aussi la contraception. C'est quand même 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Mais les natalistes trouvent que la loi n'est pas assez bien appliquée parce que les jurys populaires des cours d'assises sont apparemment trop émus par le désarroi des femmes et ils les acquittent en leur trouvant des circonstances atténuantes. La pression des natalistes va donc aboutir, en mars 1923, à une nouvelle loi pour changer le statut du crime d'avortement qui sera désormais jugé par un tribunal correctionnel composé de magistrats de carrière. Supposément, eux seront moins indulgents que les jurés. Alors, il faut savoir que finalement, à la fin du 19e siècle, il n'y avait pas tant de condamnations que ça. On enregistre entre 15 et 20 condamnations dans les années 1810. Et ce chiffre va croître progressivement jusqu'en 1935 avec 277 condamnations en 1935. Et puis on a un pic sous le gouvernement Vichy et les lois répressives qui vont avec. Entre 1943 et 1945, avec environ 3800 condamnations par an, jusqu'à atteindre un nouveau pic en 1946 de 5151 sanctions pénales, alors même que les lois du gouvernement Vichy avaient été abrogées à ce moment-là. Après la libération, le chiffre chute fortement et se rapproche de zéro à partir de 1973, les tribunaux anticipant la légalisation de l'avortement. Je précise quand même que sous Vichy, c'était bien la peine de mort qui était appliquée, avec la loi de 1942 dans laquelle l'avortement est considéré comme un crime contre la sûreté d'État. On a par exemple la faiseuse d'ange Marie-Louise Giraud qui a été guillotinée pendant la Deuxième Guerre mondiale le 30 juillet 1943, suivie par Désiré Piogé le 22 octobre pour 3 avortements. À partir de la fin des années 50, les mouvements de revendication des femmes pour légaliser l'avortement se multiplient. Les raisons de revendiquer la légalisation de l'avortement sont claires. D'abord, l'accès à la contraception est insuffisant. Ensuite, l'avortement est simplement le droit à disposer de son corps. Et enfin, les avortements clandestins font beaucoup trop de victimes. Il faut y apporter un cadre légal et sanitaire. Mais bien sûr, la légalisation de l'avortement va se faire en plusieurs étapes, comme par exemple le serment d'Hippocrate qui va être révisé en 1966 parce que il interdisait l'avortement. Mais ce qui va vraiment marquer le militantisme autour de l'avortement, c'est le manifeste des 343 en 1971 et puis ensuite le procès de Bobigny où est jugée une jeune fille mineure qui avait avorté après un viol. Ceci est tellement médiatisé qu'elle sera acquittée en 1972 et à partir de ce moment-là, le ministre de la Justice donne ordre au parquet de ne plus suivre les avortements, d'arrêter totalement les condamnations. Mais évidemment, parallèlement à ça, on observe aussi l'émergence des mouvements pro-vie qui ralentissent évidemment l'accès à l'avortement légal pour tout le monde. Finalement, en 1973, le MLAC est créé par des médecins issus du mouvement français pour le planning familial et la CFDT et ces médecins, ils vont réaliser des milliers d'avortements et les revendiquer. Ils vont organiser ouvertement des voyages en bus pour les femmes qui veulent avorter à l'étranger. Donc en voyant que la loi elle est si ouvertement bafouée et qu'il est impossible de la faire respecter, finalement l'avortement va être autorisé et encadré par la loi Veil en 1975, défendue par Simone Veil devant une assemblée composée majoritairement d'hommes. Aujourd'hui, l'avortement est légal en France, mais il est régulièrement remis en question par certains et certaines membres du gouvernement, en particulier la droite. C'est pourquoi il est encore nécessaire aujourd'hui de se battre pour garder ce droit, qui n'est rien de plus finalement que le droit à disposer de son corps, défendu fermement par Amnesty International et ce, partout dans le monde. En France, depuis 2022, le délai d'avortement est de 14 semaines de grossesse contre 12 semaines auparavant. Et si vous souhaitez avorter, en France, aucun médecin ne peut s'opposer à votre décision, contrairement à l'Italie par exemple. Vous pouvez donc vous rendre chez votre médecin, généraliste ou bien à l'hôpital, ou bien encore demander conseil au planning familial. Sur Montpellier, on trouve assez facilement sur Facebook pas mal de structures qui peuvent vous accueillir. Et il existe également un numéro vert national qui est le 0800 08 11 11. Donc vous avez le droit d'avorter et maintenant vous savez comment vous avez eu le droit d'avorter. Mais si les avancées en matière de droits des femmes sont assez évidentes en France, c'est pas le cas partout dans le monde. Les droits des femmes restent menacés, particulièrement en Afghanistan, depuis que les talibans ont repris le pouvoir. Le 27 août 2021, à l'issue d'un pont aérien très chaotique, le piège s'est refermé définitivement sur la société afghane, contrainte de vivre à nouveau sous le joug des talibans sans échappatoire possible. Le 27 août 2023, notre tribune, la tribune d'Amnesty International, revient sur la nécessité de venir en aide aux femmes afghanes, toujours prisonnières d'un régime qui tente de les faire disparaître. Ce à quoi on assiste en fait, c'est une véritable campagne de persécution qui est organisée, généralisée et systématique, fondée sur le genre. Un des pires systèmes de domination mis en place dans le monde au niveau étatique pour contrôler et effacer des femmes dans l'espace public. Cette guerre contre les femmes, comme Amnesty International l'a qualifié dans son rapport en mars 2023, pourrait ainsi constituer, selon l'analyse d'Amnesty International, un crime contre l'humanité dont les auteurs, on l'espère, devront répondre un jour devant les juridictions nationales ou internationales. La faillite de l'État afghan, notamment dans l'arrière-pays, où ses missions régaliennes, donc la santé, éducation, sécurité, n'étaient plus assurées, est sans doute à l'origine du retour des talibans au pouvoir. Mais depuis plus de 20 ans, toute une génération de filles avait pu avoir accès, au moins dans la capitale et dans les grandes villes, à un minimum d'éducation, à un travail, dans la fonction publique ou même à la direction de sociétés privées. Et là, c'est plus du tout le cas. C'est une très très grosse avancée en arrière, finalement. C'est la raison pour laquelle Amnesty International prévoit de faire une nouvelle campagne en solidarité pour les femmes afghanes et on commence dès maintenant avec le groupe Amnesty Montpellier qui organise une randonnée de solidarité le 1er octobre. Le départ se fera à 10h au parking des caves de l'Estabel, deux routes de Rougeant, face à la coopérative. C'est une randonnée de 3h, 3h30 où vous pourrez rencontrer des membres du groupe local d'Amnesty et plein d'autres militants et militantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio FM+, pour parler un peu plus de droits humains toute l'année.